Bonjour, samedi 2 avril, ravi de vous retrouver pour notre voyage hebdomadaire au cœur de 7 jours d'événements sur la planète avec les reportages des envoyés spéciaux et des correspondants de RFI.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Nous allons bien sûr parcourir le monde et parler de la France aussi avec par exemple l'annonce de l'abandon de la réforme constitutionnelle sur la déchéance de la nationalité par François Hollande mercredi.
J'ai décidé, après m'être entretenu avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, de clore le débat constitutionnel.
Nous reviendrons sur cette décision après le flash dans la seconde partie de l'émission. Une semaine d'actualité à écouter aussi sur notre site à podcaster RFI.fr. Aujourd'hui, il va beaucoup être question de la RDC, République démocratique du Congo, et du Kivu précisément, avec notre invité de retour de cette région, et auteur d'un livre remarquable, je le précise tout de suite. Son titre, « Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira avec les combattants du Kivu », c'est un livre à la fois de reportage et une analyse très sérieuse de la situation dans cette région un peu mystérieuse de l'Afrique, à l'est de la République démocratique du Congo. Livre écrit par notre invité, Justine Brabant. Bonjour Justine Brabant.
Bonjour.
D'abord bravo, parce que vous avez fait ce livre qui est formidable sur le fond, sur un sujet qui n'est jamais traité en France quasiment.
Il l'est un petit peu.
Sauf sur RFI.
Voilà, sauf sur RFI. Non, c'est vrai, une des choses qui a fait que j'ai envie de l'écrire, c'est que j'ai eu l'impression que lorsqu'on parlait de République démocratique du Congo en France, c'était souvent pour parler de certaines des conséquences, quelque part, du conflit, que ce soit la question des violences sexuelles. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui reviennent beaucoup. En revanche, des questions très simples comme mais qui sont ces combattants? Pourquoi se battent-ils? Pourquoi ont-ils pris les armes depuis 20 ans? J'étais assez incapable moi-même d'y fournir une réponse, c'est pour ça que je suis allée voir là-bas ce qui se passait.
Il faut préciser où est cette zone. D'abord, doit-on parler du Kivu ou des Kivus, parce qu'il y a le nord et le sud.
Alors, le Kivu, utilisé au singulier dans le sous-titre de mon livre, c'est un petit peu une facilité de langage pour désigner cette région. En réalité, aujourd'hui, il faudrait parler des Kivus au pluriel, puisqu'il y a effectivement le nord Kivu et le sud Kivu. Alors, certains Congolais l'utilisent toujours au singulier, parce que avant que cette province soit découpée en deux, c'en était une seule. Donc, on peut à peu près dire les deux sans se tromper. Donc ce sont deux provinces qui se trouvent à l'est de la République démocratique du Congo, qu'on appelle aussi parfois le Congo-Kinshasa. Ce sont deux provinces frontalières du Rwanda et du Burundi surtout, avec aussi une petite partie de frontière avec la Tanzanie au sud et l'Ouganda au nord. Et ce sont des provinces qui, d'un simple point de vue climatique ou géographique, ressemblent en fait plus au Rwanda et au Burundi qu'à Kinshasa, la capitale.
Un relief montagneux.
Voilà, un relief montagneux, un climat assez frais en fait. Par rapport à d'autres endroits du Congo. Kinshasa, en fait, la capitale, se trouve à 1300 km à vol d'oiseau de ces provinces. Il faut réaliser que c'est à peu près la distance qui sépare Paris de la Biélorussie. Donc voilà, ce territoire immense du Congo.
Alors, Rodi Mouman, qui signe la préface de votre livre, c'est une vraie préface, une analyse géopolitique de la situation dans cette région de la RDC, dit que vous avez eu l'élégance de vous effacer. On ne vous voit pas trop suer et souffrir, mais ça a été quand même le cas dans ce reportage.
Ça a été effectivement le cas, si vous voulez tout savoir, puisque pour suivre un petit peu ces combattants, les comprendre, il faut beaucoup marcher. Il faut beaucoup marcher parce que eux marchent beaucoup, tout simplement, passent beaucoup de leur journée à le faire, puisque la plupart des groupes armés irréguliers à l'est se sont établis dans des montagnes. Donc on marche beaucoup dans les montagnes, dans des sentiers parfois très boueux, très compliqués. Mais au final, pour le ou la journaliste, j'ai l'impression que c'est un bon moyen aussi de nouer un lien, y compris avec les simples combattants, les sans-grades, qui sont sinon assez difficiles à rencontrer. Et en fait, quand on partage une trentaine de kilomètres, les pieds dans la boue à patauger, on trouve des choses à se dire, généralement.
C'est vrai que soit il y a une chaleur extrême, soit il y a beaucoup de boue dans votre livre, tout au long de ce reportage. Un mot quand même sur votre démarche personnelle. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à cette région de l'Afrique?
Alors, ça remonte à 2008, 2009. À cette époque-là, il y a notamment un journaliste américain, Nicolas Christophe, qui est un célèbre journaliste du New York Times, qui avait fait une série d'enquêtes et de reportages là-bas, au sud Kivu plus précisément, et dans un de ses articles, qui en fait moi j'en avais eu connaissance parce qu'il était traduit dans Courrier International à l'époque, et dans un de ses articles il avait des mots assez forts, il nous disait en substance « Nous pensons tous que lors de la Shoah, si nous avions su, nous aurions fait quelque chose, et ben peut-être qu'il est en train de se passer à peu près la même chose en termes de nombre de morts au Congo, et pourtant personne ne fait rien. » Alors à l'époque, étant, je terminais un petit peu mes études, ayant l'impression de m'intéresser un petit peu à ce qui se passait dans le monde, je voulais déjà devenir journaliste, je lisais beaucoup les rubriques internationales des journaux, j'avais été assez frappée, je m'étais beaucoup questionnée, ça fait partie des choses qui ont contribué à ce que j'ai envie d'aller voir. Alors après, bien sûr, il y a la question des possibilités logistiques de le faire, qui ne sont arrivées que plus tard. Mais voilà, ça a été un des déclencheurs.
Parce qu'il faut préciser que ce livre, c'est quand même 3 ans de travail, non ? Des reportages qui, mis bout à bout, représentent 3 ans à peu près de
oui,
travail.
Oui, oui, oui. Effectivement, mes séjours sur les terrains, je les ai concentrés entre 2011 et 2014, même si je m'intéresse au Congo depuis un petit peu plus longtemps quand même.
Alors Justine Brabant, partons tout de suite au nord Kivu, justement, où quelques 30 000 déplacés, des réfugiés de l'intérieur, qui se trouvaient dans 2 camps, Mpati et Kivuye, ont été pris dans des affrontements il y a une semaine environ entre l'armée congolaise, que vous décrivez fort bien dans le livre, on va y revenir, et des groupes armés. À Kinshasa, notre nouvelle correspondante Sonia Rollet a fait un point jeudi.
Près de 30 000 déplacés dans une zone de conflit, considérée comme un belligérant par l'armée congolaise et à la merci des groupes armés. Pourquoi la MONUSCO n'intervient pas pour protéger les déplacés? C'est le porte-parole de la MONUSCO, Prosper Félix Bass, qui tente d'expliquer aux journalistes.
Nous ne sommes pas présents en PAT. Nous avons délocalisé nos bases pour des urgences. Je pense que nous vous avions aussi parlé ici d'une chose, c'est l'accord technique pour la reprise de la coopération qui stipule clairement que les FRDC pourraient demander un soutien à la MONUSCO. Ceci n'a pas été fait.
La MONUSCO se dit préoccupée, tout comme le HCR. Andreas Kirchnoff, porte-parole du HCR.
Le HCR a depuis longtemps poursuivi un plaidoyer auprès des autorités pour la protection des sites. Qu'est-ce qui s'est passé en détail dans ces incidents-là qui ont eu lieu dans les derniers jours? Ça restera à examiner. Comme je dis, nous, on n'a pas accès pour le moment.
La résolution 2277 qui vient d'être adoptée au Conseil de sécurité, comme les précédentes, insiste sur l'importance de protéger les civils et notamment les déplacés et les réfugiés. En les camps de Mpati et de Kivuye ne sont pas les seuls à être localisés dans le Massissi sur des sites où l'armée et les groupes armés sont susceptibles de s'affronter, prévient un expert sur le Congo.
Alors ça y est, nous y sommes dans le Kivu, au nord Kivu, où la population civile, là, des déplacés, des réfugiés de l'intérieur, sont ballottés.
Oui.
Manifestement.
Oui, en fait, cette question des civils qui sont pris pour cible parce qu'ils sont soupçonnés de liens avec les groupes armés, c'est en fait malheureusement un classique de cette guerre qui dure depuis 20 ans. Je raconte dans mon livre notamment les premiers massacres commis par le RCD, qui était un groupe armé soutenu et financé par Kigali, qui a été actif à l'est du Congo à partir de 98, et dont les habitants de l'est gardent véritablement un souvenir cuisant, parce que c'est un groupe armé qui a commis des exactions terribles. Et bien, les explications du RCD, c'était nous avons fait une descente dans ce village parce que les gens de ce village soutenaient les groupes armés locaux et donc il fallait les éradiquer. Et malheureusement, il y a un cycle comme ça qui se crée de violence où les civils sont pris pour cible parce qu'ils sont jugés complices et en même temps, alors c'est certes utilisé comme un prétexte et en même temps c'est une part de réalité que ces groupes armés ont une forte base sociale, une forte popularité dans pas mal d'endroits parce que dans un premier temps, les groupes armées se sont présentées comme des défenseurs du Congo, parfois même à l'échelle d'un village. Hein. C'était de petites patrouilles de citoyens qui décidaient de prendre en main leur propre sécurité en l'absence de forces de police. Et pour ces raisons-là, ils ont gardé une certaine popularité qui fait que quand des groupes armés venus cette fois de l'extérieur arrivent, eh ben, les civils sont ciblés eux aussi.
Il faut reconnaître, Justine Brabant, que la situation a été assez complexe. Et vous écrivez d'ailleurs dans votre livre, et je précise aussi qu'il y a des cartes très utiles et des photos fort bien faites dans cet ouvrage. Vous voyez, je suis vraiment élogieux, hein, et c'est
merci.
Mérité. Vous écrivez au tout début du livre, « Pour les Congolais de Kinshasa, comme d'ailleurs pour les observateurs étrangers, le déluge de noms de chefs insurgés et d'acronymes désignant des mouvements armés a de quoi faire passer l'envie de comprendre ce qui se passe dans les Kivus. »
C'est vrai, je l'ai ressenti moi-même d'ailleurs, hein, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait là-bas.
On finit par s'y perdre. Hein.
Moi-même, j'ai fait énormément de fiches, énormément de tableaux récapitulatifs, j'ai essayé de faire des cartes. Alors, il se trouve que depuis quelques années, j'ai un ami chercheur sur le Congo, Christophe Vogel, qui fait un très bon travail de cartographie, de tentative de cartographie de ces groupes. On en trouve aujourd'hui entre 50 et 70, ça dépend si on compte certaines sous-factions, parce qu'ils s'entre-déchirent en permanence. Donc, vous imaginez un petit peu. C'est évolué très rapidement. Parfois, je retournais sur place à 3 mois d'écart. Je m'apercevais qu'un groupe avait disparu, un autre était apparu. C'est extrêmement compliqué, mais j'explique dès le début du livre que c'est compliqué parce que j'ai voulu, d'une certaine manière, décomplexer le lecteur. Je pense qu'on peut le lire sans avoir de prérequis sur qui est là-bas. En revanche, j'ai essayé de mettre en évidence des ressorts communs à tous ces groupes armés.
Est-ce qu'on peut dire, on en reparlera dans la deuxième partie de l'émission, qui, comme vous le savez, est plus africaine, entre guillemets, il faut quand même préciser que tout a commencé au milieu des années 80. Avec le Rwanda. Hein.
Oui, effectivement, le premier épisode de ce qu'on appelait la première guerre du Congo, à partir de 96, en fait, c'est une déflagration du Rwanda et c'est l'arrivée massive sur le territoire zaïrois à l'époque de réfugiés rwandais et parmi eux d'ex-génocidaires. Et en fait, le déclencheur, c'est que le Rwanda, alors l'armée patriotique constituée par Kagame, qui venait de l'APR, à l'époque, qui venait de mettre fin au génocide, s'est arrogé une sorte de droit de poursuite de ces ex-génocidaires sur le territoire congolais, ce qui était compréhensible à l'époque, bien sûr, du point de vue des Rwandais. Sauf que ces libérateurs, comme ils ont été vus dans un premier temps, sont devenus rapidement des occupants aux yeux des Congolais. Ils sont restés un certain temps, ils ont commis un certain nombre de massacres dans des camps de réfugiés où il n'y avait pas que d'ex-génocidaires. Et ça, c'est effectivement un petit peu l'étincelle.
Sept jours dans le monde.
Et nous allons partir pour la Birmanie. Justine Brabant, le nouveau président Aung San Suu Kyi, un proche d'Aung San Suu Kyi, a prêté serment mercredi devant le Parlement. C'est donc le début d'une nouvelle ère pour ce pays qui a subi, on le sait, des décennies de domination militaire. Rappelons qu'il a accepté ce rôle de doublure de la prix Nobel de la paix, empêché de devenir présidente en raison d'une constitution héritée de la junte. La constitution interdit en effet cette fonction à quiconque a des enfants de nationalité étrangère, ce qui est le cas d'Aung San Suu Kyi, qui a deux fils britannique. Rangoon, mercredi, Rémi Favre.
Il a prêté serment. Aung San Suu Kyi, le nouveau président, a promis la réconciliation nationale ainsi qu'un système fédéral pour la Birmanie. À ses côtés dans le Parlement, ses deux vice-présidents. L'un d'eux est un ancien militaire, un proche de l'ancien dictateur. Ce nouvel exécutif s'est ensuite rendu au palais présidentiel où le président sortant a rencontré son successeur. Un moment très symbolique, c'est la première fois en Birmanie depuis le coup d'état militaire de 1962 qu'un homme politique qui n'est pas issu des rangs de l'armée accède à la fonction suprême et il prend la place d'un ancien officier. L'armée ne va pas pour autant disparaître du paysage politique. Son chef l'a encore rappelé il y a 3 jours dans un discours. Il a promis de jouer un rôle de premier plan. Il a pointé le risque d'une démocratie désordonnée, comme pour mettre en garde le nouveau gouvernement pro-démocratique. Le chef de l'armée et Aung San Suu Kyi ont négocié ces dernières semaines cette passation de pouvoir et les proches d'Aung San Suu Kyi ont décrit un climat très tendu. Ils ont dénoncé l'intransigeance des militaires.
Revenons maintenant sur l'attentat de Lahore au Pakistan, un attentat suicide dans un jardin public. Au moins 70 morts et des centaines de blessés. Il a été revendiqué par les talibans pakistanais qui voulaient, disent-ils, s'en prendre à des chrétiens le jour de Pâques. Reportage quelques heures après les faits de notre correspondant Michel Picard.
Dans cette ville de 12 millions d'habitants, les rues continuent d'être bondées, agitées, surchargées. Mais aux abords du parc touché par l'attentat, l'activité semble s'effacer devant la douleur des proches des victimes ou des témoins. Nonagénaire, Mohamed est venu s'asseoir sur une chaise à proximité du lieu où son petit-fils a été tué.
Je reste un homme, j'étais tellement triste et meurtri que j'ai beaucoup pleuré.
Quelques mètres plus loin, à la sortie de la mosquée où il s'est rendu pour prier, Kamal tient à rappeler que les terroristes n'ont rien de religieux.
Vous pouvez dire qu'ils sont musulmans, mais en fait, ils n'ont pas de religion. Ils n'ont aucune humanité. Ils ne sont rien.
Le groupe taliban qui a revendiqué l'attaque a affirmé cibler les chrétiens en ce jour de Pâques. Mais pour Samuel, qui vient pleurer les membres de son église touchés, Puisque le carnage a touché des membres de plusieurs confessions, il est temps de mettre fin à la ségrégation et à s'allier.
Il n'y a plus de minorité ou de majorité, chrétiens, musulmans, hindous, il faut nous protéger ensemble.
De fait, l'armée a annoncé de nouvelles arrestations en lien avec l'attaque et la découverte de caches d'armes dans la région.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie de Justine Brabant, journaliste et chercheuse spécialiste du Kivu. Alors, il faut préciser que l'actualité internationale, c'est aussi le sort de la présidente brésilienne Dilma Rousseff. On vous en parle dans nos journaux. Et l'arrivée à nouveau de réfugiés africains qui viennent de Libye, qui ont été recueillis ces derniers jours au large des côtes italiennes. Un sujet d'ailleurs qui vous intéresse.
Oui, parce que en fait, tout comme la question de l'attentat à Lahore, ça pose une question redoutable pour tout journaliste qui essaie de traiter des sujets un petit peu à l'étranger. A fortiori des questions de crise comme ça, humanitaire ou politique, c'est la question de la lassitude du public. Sur la question des migrants, on se dit là qu'on va voir réarriver probablement des vagues vers l'Italie, et je pense qu'en tant que journaliste, on se demande tous, mais comment faire pour que les gens ne s'habituent pas, comment faire pour que on n'ait pas besoin d'une inflation de chiffres de morts de migrants pour les alerter de nouveau. C'est assez redoutable comme question. Moi, j'ai pas de réponse forcément évidente. Sur la question du Congo, j'espère quand même qu'il peut y avoir, de ma petite expérience sur le Congo, j'espère qu'il y a un moteur, qui peut être un moteur pour les gens qui soit suffisant pour continuer de suivre les sujets, qui est simplement le moteur de la compréhension, en fait, du sort de petit plaisir qu'on trouve à se retrouver confronté à un sujet très compliqué et avoir l'impression, au bout d'un moment, à force d'explications, si le journaliste réussit à montrer quelques logiques qui font que quelque chose d'incompréhensible en apparence, une guerre qui dure depuis 20 ans, on commence à comprendre pourquoi et comment ça se passe. Alors je sais pas si c'est transposable sur la question des migrants, je sais pas si les gens comprenaient mieux pourquoi les gens en termes de migration pareil, ils s'y intéresseraient plus longuement, mais c'est peut-être un début de...
De sagesse. Justine Brabant, dans votre livre, qui est à la fois un reportage et une analyse, vous avez une phrase à propos d'un des fléaux de la région, les viols qui y sont commis, mais on y reviendra tout à l'heure. Une phrase qui vaut pour l'ensemble du livre, vous dites « il faut pointer les exagérations sans dissoudre la réalité ». Je trouve que la phrase est très claire et très pertinente. Parce que vous essayez de remettre en cause quelques idées reçues, notamment, vous parliez de Christophe tout à l'heure du New York Times, par exemple, et Ronnie Bormann y fait allusion dans sa préface, on dit 6 millions de victimes dans le Kivu, personne n'a vérifié.
On dit 7, hein, d'ailleurs, 7, Nicolas Christophe dit 7. Ouais. Personne n'a vérifié.
D'où viennent ces chiffres,
hein? À vrai dire, on peut dire que c'est un chiffre impropre, que c'est un chiffre exagéré, inexact, pour plusieurs raisons, méthodologiques, liées au fait que ça vient d'une première enquête menée par une ONG américaine, l'International Rescue Committee, qui, en fait, déjà avait beaucoup extrapolé. C'est-à-dire que, par définition, dans une guerre, vous pouvez pas aller partout pour faire une enquête et demander aux gens combien de personnes sont mortes dans leur famille, puisque c'est la méthode utilisée par ce type d'enquête. Donc l'IRC a pu se rendre dans certaines zones. Rien n'indique qu'elles étaient représentatives de ce qui se passait dans tout le Congo. L'IRC a quand même extrapolé, a obtenu un chiffre de 5 millions de morts, si ma mémoire est bonne, entre 1997 et 2007. Et Nicolas Christophe, ce journaliste américain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a extrapolé sur l'extrapolation. Il a écrit 3 ans plus tard et il s'est dit, bon, 3 ans plus tard, j'ai besoin d'un chiffre actualisé. Combien ça peut être? En fait, il a fait une sorte de règle de 3. Il a considéré que le nombre de morts par an au Congo était constant et il a additionné. C'est tout à fait improbable.
Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de sous-estimer quoi que ce soit. Il s'agit d'essayer d'approcher le plus possible la vérité, tout simplement.
Voilà, mais c'est pour ça que j'ai aussi cette phrase sur il faut pointer les exagérations sans dissoudre la réalité. Mon propos n'est pas du tout de dire que cette guerre n'a pas été tragique.
Bien sûr.
La plupart des humanitaires s'accordent à dire qu'elle a fait plusieurs millions de morts, ce qui est déjà au-delà de toute raison, de toute logique. Donc mon propos, c'est simplement de dire qu'en exagérant, on peut avoir l'impression de bien faire, de mobiliser autour d'une zone peut-être peu traitée. En réalité, je pense qu'on dessert les vraies victimes de ce conflit en se disant finalement 1 million de plus, 1 million de moins, qu'est-ce que ça change, quoi.
Justine Brabant, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde, peut-être parlera-t-on du Kivu, sait-on jamais, et on se retrouve dans 3 minutes. A tout de suite.
mémoire.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre résumé de 7 jours d'événements avec la rédaction et notre invitée, Justine Brabant, auteure d'une enquête sur le Kivu.
Une semaine d'actualité.
Comme d'habitude, nous filerons en Afrique dans un instant, mais arrêtons-nous un moment en France. 4 mois pour rien, débat à l'Assemblée, débat à la radio et à la télévision, flot d'articles, de tribunes, de polémiques, tout cela pour rien. Initiateur du projet de réforme constitutionnelle sur la déchéance de la nationalité et l'état d'urgence qu'il avait annoncé avec solennité quelques jours après les attentats de novembre dernier à Paris, lors d'un congrès à Versailles, François Hollande a donc annoncé mercredi que finalement il y renonçait. Julien Chaval.
Le président de la République porte une responsabilité immense dans ce fiasco, dans cette bérésina qui, pour moi, marque la fin du quinquennat de François Hollande.
Le député Les Républicains Éric Ciotti est lapidaire. Le premier responsable, c'est François Hollande, lui qui s'est pris à son propre piège. La gauche, de son côté, accuse l'opposition. Pour Bruno Le Roux, le chef de file des députés PS, c'est la faute de la droite sénatoriale.
La droite nous a dit, nous ne vous aiderons pas à faire une révision constitutionnelle, quel qu'en soit le sujet. Et je regrette que dans une période de guerre, dans une période de lutte contre le terrorisme, une partie de la droite n'ait pas été à la hauteur du moment.
Au-delà du « c'est pas nous, c'est eux », Christian Paul, un frondeur socialiste opposé dès le début à la déchéance, pense que toute la classe politique est perdante dans cette affaire.
Je crois qu'il y a beaucoup de perdants. La droite et la gauche se sont divisés. Les Français eux-mêmes se sont divisés sur cette réforme constitutionnelle. Des millions de Français ont été atteints dans leur sentiment national. Donc oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça qu'il était grand temps, peut-être trop tard, le mal est fait, de tourner la page.
À 13 mois de la fin de son quinquennat, François Hollande voit son autorité encore fragilisée en pleine contestation de la loi El Khomri.
Effectivement, jeudi, il y avait une nouvelle journée de grève et de manifestation contre la réforme du Code du travail. Alors, entre 200 000 et 500 000 personnes, selon la police ou les organisateurs, reportage en tout cas à Paris de Laurence Théo.
C'est une pluie glacée et têtue qui abat les drapeaux et détrempe les banderoles. Mais les jeunes sont là, car de cette loi travail, ils n'en veulent toujours pas. Cheveux mouillés, les deux mains enfoncées dans les poches, Pierre Moquel est lycéen, ils manifestent toujours pour les mêmes raisons.
Cette loi, elle précarise encore plus les jeunes qui entrent sur le marché du travail, les étudiants qui travaillent déjà et les futurs travailleurs qui sont en ce moment au lycée. Donc on a conscience de notre avenir, donc on se mobilise avec les mêmes arguments parce que la loi reste en substance la même.
Cheveux bruns, maquillage appuyé, Anna, étudiante, est venue avec son amie Aude. Elle se sent concernée.
Ça nous concerne parce que c'est notre futur et quand on sait qu'en France il y a presque 25% de chômage chez les jeunes et que les jeunes galèrent en CDD en intérim et qu'en plus on veut encore nous retirer des droits.
Il y a pire que ça, il y a pire que les jeunes en CDD en intérim. Il y a les stagiaires. Oh mon Dieu!
Samia Mokhtar est présidente du syndicat lycéen Lunel. Selon elle, si le gouvernement a reculé sur la déchéance de la nationalité, il peut également le faire sur la loi travail.
Ça ne fait que nous conforter dans notre mobilisation et dans notre intérêt à demander le retrait.
Des heurts ont émaillé les manifestations à Paris et en région. William Martinet, le président du syndicat étudiant Lunef, a fermement condamné ces violences.
Une semaine d'actualité.
Justine Brabant, journaliste et chercheuse, vient d'écrire « Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira avec les combattants du Kivu », un livre publié aux éditions La Découverte. Alors, vous vous disiez, en écoutant ces reportages français, c'était entre la France et l'Afrique, qu'il faut en quelque sorte exotiser la France, non? C'est ce que vous disiez?
Oui, parce que, bon, moi j'ai pas forcément de réaction immédiate sur la question de la loi El Khomri ou la déchéance de nationalité. Par contre, ça signifie pas du tout que je m'intéresse pas à l'actualité française. J'imagine. J'ai l'impression que pour certains reporters qui vont souvent à l'étranger, en particulier sur des théâtres de conflit, il y a une tentation de dire bon, quand même en France, on n'a pas de vrais problèmes, il faut arrêter. Voilà, une tendance un petit peu à tout rapporter à ce qui se passe de plus grave ailleurs. Bon, moi je pense qu'il faut pas avoir ce travers-là. Et en particulier, je m'intéresse beaucoup et je trouve intéressant la démarche de ces grands reporters qui aujourd'hui en reviennent à la France. Il y a plusieurs cas, par exemple, il y a Florence Aubenas. Oui.
qui a passé beaucoup de temps en Afghanistan, en Irak, qui maintenant fait des chroniques sur la France dans le monde. Il y a Anne Niva qui a aussi passé beaucoup de temps en Irak, qui s'apprête à sortir un livre là sur une sorte de tour de France à la rencontre des Français. Je trouve ça intéressant comme démarche. Et effectivement, je trouve ça intéressant parce que je pense qu'il faut d'abord surtout désexotiser l'étranger. Il faut arrêter de voir ce qui se passe ailleurs comme au prisme de la culture ancestrale, de je ne sais quoi, ou des traditions millénaires de je sais quoi. Je pense que la plupart des gens quand même ont fondamentalement des réflexes qui sont les mêmes que les nôtres. Ce sont des êtres humains qui évoluent dans des sociétés où la politique a sa part. Et par ailleurs, je pense qu'il faut un petit peu exotiser la France, c'est-à-dire apprendre à la voir avec un œil un peu étonné. Mmh. Voilà, il faut réapprendre à s'étonner aussi de ce qui se passe chez nous.
Je partage votre avis, pour ne rien vous cacher, Justine. Il faut rappeler à propos de démarche quelle a été la vôtre avec ce livre, hein, qui est un voyage au long cours dans les deux Kivu, dans le Kivu nord-sud, avec les combattants, avec la population. D'ailleurs, à propos de... avant de parler de la démarche, un mot de vocabulaire. Vous avez un chapitre dans lequel vous remettez en question les termes de rebelles, de combattants, etc. Ce qui est un peu paralysant parce qu'on ne sait plus comment appeler les rebelles, les combattants et la population.
Non, effectivement, ce ne sont pas des prescriptions vis-à-vis de collègues journalistes, parce que je ne voudrais pas du tout qu'on se prive de parler de ce sujet par peur de mal dire. Mais c'est simplement de petites réflexions que je tenais à partager sur comment trouver le mot juste quand on parle de ces choses-là et comment se débarrasser de certains mots pièges. Alors par exemple, oui, la question de les rebelles, moi j'ai l'impression qu'on l'utilise parfois un peu abusivement pour parler de mouvements armés, parce qu'en fait, rebelle, la définition du rebelle, en principe, c'est celui qui veut renverser l'ordre établi et donc le régime, le gouvernement en place. Or, à l'est du Congo, la plupart des groupes, en particulier des groupes Maïmaï, ces groupes d'autodéfense très locales, ne veulent pas du tout la chute du gouvernement. D'ailleurs, ils se sont fait financer à une époque par Kinshasa, qui était très content de trouver en eux une sorte d'armée de substitution face aux invasions venues de Rwanda. Donc voilà, ça c'est un premier exemple de mot auquel il faut faire attention. Il y a des groupes rebelles, hein, par exemple le M23 qui fait partie des plus récents à s'être manifesté là-bas. Je pense qu'on peut parler de rebelles, mais pas tous, il faut faire attention.
Alors la démarche.
La démarche, je lisais un petit peu au début, c'est...
La marche et la démarche.
Voilà, c'est la marche, la démarche, l'une et l'autre s'alimentent finalement. C'est tenter de répondre à des questions aussi simples que qui sont ces gens qui se battent depuis 20 ans, pourquoi ont-ils pris les armes et surtout pourquoi continuent-ils de les prendre 20 ans après.
Et on commence le livre en vous lisant et vous tapez à la porte de combattants en fait.
Oui. Ce livre commence par une liste en forme un petit peu d'énigme, une liste fournie par le fils d'un grand chef armé du Sud Kivu, Mzé Zabuloni. Et un de ses fils, en fait, me donne une liste où lui a recensé, alors elle n'est pas exhaustive, hein, mais il a recensé une douzaine de noms de chefs armés des Kivu. C'est son père hein, qui lui a donné la plupart. Et il me dit, écoute, va tous les rencontrer. Donc le père me dit, vas-y avec mon fils, en y allant avec lui, on t'ouvrira aussi des portes. Hein. En réalité, j'ai fini aussi par me débarrasser de ce compagnon de voyage. Parce qu'il
et
faut
les
pas
portes,
être...
vous les avez ouvertes toutes seules.
Il ne faut pas être trop accompagné non plus, sinon on s'enferme d'autres, des portes. Mais j'ai essayé de la suivre, j'ai essayé simplement d'aller rencontrer ces gens qui étaient identifiés là-bas comme de grands chefs de guerre. J'ai commencé par leur poser des questions très simples, et puis bien sûr, après, je me suis aperçue en cours de route, c'est aussi un récit où je fais part de mes découvertes, de mes doutes, de mes incompréhensions. Je me suis aperçue qu'il y en avait beaucoup d'autres des questions. Je me suis aperçue en particulier que parfois je me les posais mal, ces questions. En particulier quand j'allais leur demander, mais alors, pourquoi vous êtes entrés dans cette guerre terrible qui a duré 20 ans, tout ça? En fait, c'est poser la question à l'envers, je m'en suis rendu compte. Puisque au moment où ils ont pris les armes, la plupart se rendaient pas du tout compte que cette guerre allait durer 20 ans et qu'ils allaient y perdre éventuellement des membres de leur famille. Pour eux, au départ, la plupart du temps, ils prenaient, je le disais, un fusil pour défendre le village où ils lançaient des cailloux. Donc parfois, on entre dans la guerre sans s'en rendre compte presque.
Alors au fil des rencontres, vous parcourez la jungle et les montagnes, les villages, les villes, Goma, Bukavu, j'imagine, les deux capitales des deux Kivu, et vous rencontrez, comme ça, au hasard, presque, non seulement les combattants, combattants d'un jour, combattants d'hier et combattants de demain, peut-être, mais aussi la population civile qui vous raconte.
Juste une parenthèse, je les rencontrais rarement au hasard, ces combattants, hein, parce qu'en fait,
Je pense que la clé
de la population civile.
D'accord.
Les combattants, effectivement.
Non, mais j'en profite pour dire quelque chose qui est peut-être pas forcément évident pour les gens qui se sont jamais trouvés dans ce genre d'endroit. Je pense que la sécurité du reporter, le fait de réussir à se rendre dans des endroits compliqués, ça vient pas du fait d'avoir de gros muscles ou des notions de boxe ou de Krav Maga ou que sais-je.
Ce qui ne semble pas être votre cas.
Merci. Mais ça vient du travail, du fait de travailler énormément, et avant de se rendre dans un endroit pour y rencontrer un chef de groupe armé, passer des jours à essayer de définir très précisément quelle zone il contrôle ou non, est-ce qu'il tient bien ses éléments, parce que c'est ça la clé de la sécurité, c'est que si le chef que vous rencontrez a une autorité sur ces éléments, vous savez qu'il y aura moins de dérapage, et donc on va pas vous chercher d'ennui. En revanche, si vous savez qu'il a un pouvoir un peu lâche sur la zone qu'il administre, là vous courez plus de risques. Bref, fin de la parenthèse. Les civils, oui, bien sûr, je les ai rencontrés aussi. J'ai parfois voyagé avec eux, et notamment je raconte ce voyage que j'ai fait avec une infirmière, qui en fait ce qu'on appelle dans les catégories des organisations internationales une déplacée de guerre, puisque elle avait dû fuir son village à la suite d'affrontements très forts, et en fait j'ai fait avec elle le voyage retour. Elle essayait de retourner chez elle dans la maison qu'elle avait dû fuir quelques mois auparavant. Malheureusement, elle a pas réussi, en tout cas pas cette fois-là. On a dû faire demi-tour, mais là encore, c'est souvent en marchant, en empruntant les transports en commun avec les gens qu'on réussit à récolter aussi ces histoires comme ça de vie.
Alors, avant de revenir au Kivu avec vous, Justine, faisons escale en Centrafrique. Notre voyage africain continue. À l'occasion de la prestation de serment mercredi dernier du nouveau président Faustin Archange Touadéra, élu, il faut le rappeler, le 14 février dernier, reportage à Bangui de notre envoyé spécial Anne Cantenaire.
Dans les gradins comme à la tribune, tout le monde a exprimé le même souhait, voir rapidement la sécurité revenir en Centrafrique. Lisanette avait milité pour Faustin Archange Touadéra pendant la campagne, et pour elle, toute la vie quotidienne dépend de la sécurité.
Nous voulons seulement la paix, si la paix est en Centrafrique, nous pouvons aller à l'école, vendre, faire n'importe quoi comme nous voulons faire. Il peut le faire. Il a confiance en nous, et nous aussi, nous avons confiance en lui.
Mais pour mener à bien ce chantier, le nouveau président centrafricain aura besoin d'aide. Il l'a dit lors de la cérémonie, et ce sentiment est largement partagé par Adolphe, par exemple.
Chacun doit amener la paix par son cœur, d'abord. Et surtout, nous comptons beaucoup plus sur la France. Sans la France, qu'est-ce que nous pouvons faire? Non, la France doit être à nos côtés, à nos chevets, en cas de difficulté.
La France qui vient d'officialiser la fin de l'opération Sangaris cette année en promettant de ne pas abandonner la Centrafrique. Des soldats français resteront dans le pays au sein de la mission de l'ONU, et Paris va débloquer des fonds, à commencer par 10 millions d'euros pour aider les autorités à payer les salaires des fonctionnaires.
Centrafrique toujours, avec tout autre chose, de nouvelles accusations de viol contre des casques bleus et des soldats français selon l'ONU. Accusation lancée par une ONG, Aids Free World, Pierre Pinto.
Plus d'une centaine de victimes présumées, la plupart mineures, ont été entendues par les équipes de l'ONU ces derniers jours, et les investigations continuent, assure-t-on à la MINUSCA. Les Nations Unies ont été alertées de cas particulièrement graves, suscitant des réactions au plus haut niveau. Selon l'ONG Aids Free World, plusieurs jeunes filles affirment avoir été contraintes par des militaires français déployés dans la région de Sibut en 2014 d'avoir des rapports sexuels avec un chien, des faits qui restent toutefois à confirmer selon l'ONU. D'autres allégations concernent des éléments des contingents burundais et gabonais de la MINUSCA déployés dans cette même préfecture de Kemo entre 2013 et 2015. Les autorités des pays concernés ont été alertées. Les soldats des forces internationales ne sont pénalement responsables que devant la justice de leur pays respectif, et rares sont ceux qui poursuivent réellement les éléments incriminés. Le 11 mars dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution permettant de rapatrier des contingents entiers de casques bleus après des soupçons répétés de viol. Mais pour beaucoup, cela ne va pas assez loin. Sur RFI, le patron des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous, plaidait jeudi pour la création de cours martiales in situ et pour des prélèvements ADN des casques bleus lors de leur recrutement.
Revenons maintenant en République démocratique du Congo, Justine Brabant, avec la reconduction pour un an de la mission de l'ONU dans le pays, la MONUSCO. New York mercredi, Marie Bourreau.
Il n'est jamais trop tard pour faire passer des messages et avec cette résolution, le Conseil de sécurité espère bien être entendu par les autorités congolaises. Il veut des élections crédibles et inclusives et un calendrier électoral qui respecte la date butoir de novembre 2016. Le mandat de la MONUSCO garde une dimension politique avec la mention des bons offices de l'ONU qui veut pouvoir servir d'intermédiaire entre l'opposition et le gouvernement. Mais les autorités de Kinshasa s'y sont toujours opposées. Le langage est renforcé sur la protection des civils dans un contexte préélectoral très tendu. La MONUSCO pourrait donc, par exemple, contrôler les foules ou assurer la sécurité des manifestations. Mais cela reste très théorique puisque l'ONU n'a pas les capacités pour faire à la fois de la contre-insurrection dans l'est du pays et intervenir si des violences urbaines éclatent. Enfin, la résolution n'aborde pas trois sujets clés. Quels moyens si la situation dérape dans tout le pays avec des troupes cantonnées à l'Est? Que devient la mission si le président Kabila s'accroche au pouvoir en décembre? Enfin, comment justifier d'une coopération politique avec un État qui agresse ses propres citoyens alors que la protection des civils congolais est une des priorités de la MONUSCO?
Nous sommes au cœur de votre sujet, Justine Brabant. Vous écrivez dans votre livre, chaque année on discute de la reconduction du mandat de la MONUSCO. Chaque année on débat âprement de l'intérêt de renouveler son mandat. Cette mission la plus coûteuse du monde n'a-t-elle pas échoué à ramener la paix dans l'Est?
Ben oui,
c'est une bonne question.
C'est malheureusement une bonne grosse question à laquelle, bon, moi j'ai, sur la question de est-ce qu'elle a échoué à ramener la paix dans l'Est, c'est manifeste, hein, puisque les conflits n'ont pas cessé depuis 96. Après, sur le diagnostic plus en détail, c'est pas évident. Quand on arrive au Congo, quand on discute de la MONUSCO avec les Congolais, de toute façon, tous les gens estiment que c'est un désastre, pour des raisons parfois différentes. Mais alors, pour le livre, du coup, j'ai quand même essayé d'aller plus loin. Je me suis notamment entretenu avec un ancien des Nations Unies au Congo qui, par exemple, raconte les coulisses de certains accords dits de paix négociés par les Nations Unies sur place avec la collaboration de la MONUSCO. C'est compliqué, ce sont des accords de paix qui parfois ont donné lieu à paradoxalement la multiplication de groupes armés, hein, puisque d'une certaine manière, ces accords dits de paix, ils récompensent le fait d'avoir pris les armes, ils donnent à des gens, ils demandent à des gens de laisser les armes et en échange leur offre des postes politiques ou militaires. Donc il y a ce premier aspect du paradoxe, des effets paradoxaux des accords de paix. Et puis il y a, la question de... qui est un peu une question universelle des organisations qui existent depuis très longtemps et dont on finit par se demander si elles n'ont pas intérêt à faire beaucoup de bruit pour justifier leur existence. Je dis ça parce que en parlant également avec cet ancien de la MONUSCO, il me racontait comment à certains endroits la MONUSCO déclarait, ça y est, conjointement avec les FRDC, nous avons réussi à démobiliser tant de combattants.
Enfin, dans la République démocratique du Congo, ouais.
Tout à fait, avec l'armée régulière congolaise, nous avons réussi à soit vaincre tant de combattants, soit à démobiliser tant d'autres. Et en fait, quand on se rend sur place, on s'aperçoit qu'en fait, les types se sont tirés dessus à 3 km de distance pendant 2 ou 3 heures et que le bilan n'est pas faramineux. Donc, c'est difficile d'avoir des réponses, mais il faut poser la question d'une part de son efficacité et d'autre part des informations qu'elle donne, en particulier une nouvelle fois concernant les chiffres. Et est-ce que en tant que journaliste, il faut croire ces chiffres-là ou il faut aussi réfléchir à l'intérêt qu'une institution comme celle-là a à produire des chiffres un peu spectaculaires?
Tout comme vous vous interrogez, c'est ce que souligne Ronnie Bormann dans sa préface sur la présence des organisations humanitaires sur place.
Oui.
Et leur nombre, notamment.
Oui, c'est alors, une autre question qui dérange quelque part, enfin qui est... J'aime pas dire trop facilement, question qui dérange, ça fait un petit peu tic journalistique, mais
Je répète votre phrase, pointer les exagérations sans dissoudre la réalité.
Voilà, mais en l'espèce, c'est une vraie question un peu troublante aussi, c'est que quand on arrive sur place, on se rend compte assez rapidement qu'un certain nombre d'humanitaires sont liés à la guerre d'une manière ou d'une autre. Alors, premier cas, il y a ces grandes organisations humanitaires qui, pour accéder à certaines zones de conflit et délivrer de l'aide, de la nourriture, des médicaments, négocient son passage, négocient avec les gens qui sont les chefs sur place, c'est-à-dire des groupes armés irréguliers. Cette première question, c'est est-ce qu'on doit, et si oui, jusqu'où, négocier avec des chefs de groupes armés qui parfois commettent des choses terribles. Parfois, ça prend la forme d'un petit accord financier, informelle, de ramener du matériel. La deuxième chose, un peu toujours dans cette zone grise entre guerre et humanitaire, ce sont les combattants, souvent jeunes, qui, en parallèle de leur carrière combattante ou de leur carrière de représentant politique de groupes armés, ont des responsabilités dans une ONG, souvent une petite ONG, plus locale, de développement. Et ce qui est étonnant, c'est que eux ne voient pas forcément le problème. Pour eux, la guerre, c'est un moyen d'obtenir la paix, et puis la paix, c'est aussi un moyen d'obtenir le développement, donc tout se mélange un petit peu.
Et humanitaire en fait, le jour et combattant la nuit, quoi.
Oui, en quelque sorte. À l'époque de la guerre en Sierra Leone, on parlait des sobelles, les soldats rebelles qui passaient. Voilà, en fait, les frontières sont un peu brouillées, et ces trajectoires de jeunes combattants humanitaires sont assez frappantes de ce point de vue.
Une semaine d'actualité.
Justine, terminons notre voyage en Afrique du Sud, car le président Jacob Zuma est fragilisé. Jeudi, en effet, la Cour constitutionnelle du pays a jugé qu'il avait violé la Constitution en refusant de rembourser l'argent public déboursé pour sa résidence privée. Correspondance hier d'Alexandra Brangeon.
Nkanza.
Il y a quelques mois, le président Zuma se sentait intouchable et se moquait ouvertement des députés de l'opposition au Parlement. Aujourd'hui, la justice l'a rattrapé. Il doit rembourser l'argent de l'État déboursé pour rénover sa résidence privée. Et surtout, la Cour a estimé qu'il avait enfreint la Constitution. L'opposition appelle à sa démission et une procédure de destitution a été lancée. Peu de chances qu'elle aboutisse. Une destitution requiert 2/3 des voix au Parlement et le parti au pouvoir, l'ANC, est largement majoritaire. Mais le chef de l'État ressort fortement affaibli de cette affaire alors qu'il est déjà embourbé dans plusieurs scandales, notamment sur ses liens avec une riche famille d'hommes d'affaires soupçonnés d'influencer le gouvernement. Dernièrement, plusieurs vétérans de la lutte anti-apartheid ont appelé l'ANC à faire le ménage. Le parti au pouvoir va-t-il agir? On le sait profondément divisé au sujet de son soutien, un chef de l'État de moins en moins fréquentable et qui pourrait faire perdre des voix au parti lors des élections locales à venir.
Notez aussi que mardi, la cour d'appel de Niamey au Niger a accordé la liberté provisoire à l'opposant Ama Amadou qui a passé toute la campagne présidentielle en prison.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Bonjour aujourd'hui à Michael, à Yaoundé. Lui est favorable à la déchéance de la nationalité pour les terroristes. Bonjour à Ibrahima, à Conakry, à Malcolm, à Dakar, à tous nos auditeurs qui nous écoutent dans le Kivu, au nord et au sud, et à un fidèle auditeur, Nestor, à Kisangani.
Sept jours en Afrique.
J'imagine, Justine, qu'RFI vous a accompagné pendant ces périples dans les Kivu.
Énormément. Non, mais c'est vrai, je le dis pas uniquement parce que je suis avec vous et que je veux vous faire plaisir, mais
ça me fait plaisir.
J'ai beaucoup écouté RFI. Ça fait partie de ces liens à la vie française, enfin, parce que pour moi, quand même, ça reste un lien à ma vie française qui servent énormément quand on est un petit peu dans des univers très étrangers et très perturbants parfois.
Justine, je voudrais qu'on termine avec le côté économique de cette guerre que vous n'éludez pas, au contraire, que vous analysez. Évidemment, tout le monde le sait, la RDC regorge de richesses, et notamment ce territoire de l'Est.
Oui.
Et évidemment, c'est un moteur pour la guerre.
Alors, c'est un moteur, mais c'est important.
Mais vous modérez un peu les choses.
En tout cas, j'invite à la précision, parce qu'on a beaucoup parlé de minerais de sang concernant le Congo. Alors, c'est un fait, les richesses du sous-sol congolais ont contribué à la poursuite de la guerre. Ont contribué, mais il faut pas confondre avec l'effet déclencheur. Pourquoi ? En fait, si jamais les minerais avaient été le déclencheur et la cause de la guerre, eh bien, y aurait tout un tas d'autres pays africains où il y a des minerais, par exemple en Afrique du Sud, où il y aurait des guerres civiles, et à l'inverse, si c'était la seule cause du conflit, il y aurait énormément de zones de conflit actuelles où en fait ce serait la paix puisqu'il n'y a pas de minerais. Donc la démonstration ne tient pas, en tout cas on peut pas faire de démonstration monocausale. En revanche, ces minerais alimentent le conflit. Pourquoi ? Parce qu'un groupe armé, quand il est constitué, donc pour les raisons qui lui sont propres, hein, qui sont souvent politiques, qui visent voilà, à l'autodéfense, à la défense face à des invasions perçues comme telles de l'étranger, un mouvement armé, ensuite, pour perdurer, exister pendant, si besoin, 20 ans, eh ben, il doit trouver des ressources naturelles. Il a un besoin important de liquidité, en particulier, pour acheter, parce que tout simplement, pour leurs moyens de communication, par exemple, ils ont besoin d'espèces sonnantes et trébuchantes, et une manière simple d'acquérir tout ça, c'est la vente de minerais. Donc souvent, c'est pour ça qu'on voit aussi un grand nombre de groupes armés se concentrer autour de zones d'exploitation minière.
En tout cas, je recommande sur ce sujet et sur d'autres touchant le Kivu de lire votre livre, qui est un livre de référence. Ils sont tellement rares en plus que c'est très plaisant à lire. C'est un livre de voyage aussi pour découvrir ce qu'il y a dans cette région obscure de l'Afrique et plus précisément de l'Est de la République démocratique du Congo. Merci Justine.
Merci à vous.
Votre livre s'intitule « Qu'on nous laisse combattre et la guerre finira avec les combattants du Kivu » signé donc Justine Brabant avec une préface de Ronnie Broman. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée avec un numéro sur les people, et oui, les people dans Idée, avec notre invité Guillaume Herner qui avant d'être un homme de radio était sociologue. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris, 15h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.